RMC Grand Plateau, Georges Quirino.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans Grand Plateau, un grand plateau avant ce que les médias étrangers appellent le blockbuster peut-être de l'année, Liège-Bastogne-Liège avec Paul Sexas, avec Remco Evenepoel, avec Tadej Pogacar. Alors il y a quelques semaines dans l'intimité de l'équipe je disais petit à petit ça commence à être le monument qui m'excite le plus et là bah plus on s'en approche et on est en plein dedans. On en parle aujourd'hui avec Pierre Coitchette. Salut Pierre.
Salut Georges.
Et Maxime Martinez avec nous. Salut Max.
Salut Georges.
Non mais bon les gars, vous êtes aussi excités que moi là et que tous nos auditeurs.
Tellement hâte d'y être. Tellement hâte.
Non mais franchement, on enregistre ce podcast le jeudi. Il nous reste quelques dodos, peut-être que vous écoutez ça le jour de la course. Bravo à vous. Mais Pierre, c'est vrai que les monuments nous ont fait rêver cette année, mais celui-là en France, évidemment, on l'a coché. Hein.
Voilà, on a quand même été particulièrement gâtés depuis le début de la saison. Tu parles des monuments, je rajouterais les Strade Bianche dans la.
T'as raison.
Qui était assez exceptionnel aussi. On a maintenant des parcours qui sont bien connus, identifiés, qui ont chacun des caractéristiques propres. On a à chaque fois un casting XXL et des protagonistes plus ou moins à leur meilleur niveau. Donc on est à chaque fois avec des duels de champions et des duels ou plus. Et j'ai assez hâte de voir ce duel-là. Duel ou un peu plus.
Ouais, oui. Ou bataille à trois.
Ouais, par exemple, sur Liège. Enfin, ça fait 5 ans que Liège, en fait, on connaît plus ou moins le vainqueur.
Et le scénario.
Voilà, avant, et là, non. Enfin, et là, moins.
Alors, la question qu'on va se poser... On espère que non, effectivement, la question qu'on va se poser, alors que je vous rappelle que vous pouvez vivre Liège-Bastogne-Liège ce dimanche sur RMC, avec Maria Azé sur place, avec Jérôme Pineau au commentaire, en direct, évidemment. La doyenne des classiques, 112e édition. La question qu'on va se poser, c'est Sexas va-t-il faire douter Pogacar à Liège? Donc, après, notamment, cette victoire pleine d'autorité à la Flèche Wallonne. Max, est-ce que tu as envie d'y croire?
Moi, j'ai envie d'y croire, mais j'ai surtout envie de voir combien de temps il va tenir dans la route Pogacar. C'est ça en fait. Parce qu'Ostrade, il a tenu, allez, 45 secondes, une minute, et puis il a pété.
Et puis Zach Del Toro a fait la cassure.
Là, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il va tenir plus longtemps? Est-ce que, si, scénario habituel, hein, ça fait 4 ans que ça attaque dans la redoute, hein, donc ça fait 4 ans, il y a eu Evenepoel 2 années, Pogacar 2 années, si Pogacar attaque dans la redoute, est-ce qu'il va tenir jusqu'en haut? Et après, combien de temps il va tenir? C'est ça, moi, j'ai envie de voir ça.
Pierre?
Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on y croit? Oui et non, en fait, parce que...
En fait, on a envie d'y croire, mais voilà. On s'interdit un peu d'y croire, j'ai l'impression.
Il y en a quand même un qui est plus fort que l'autre, ouais. Normalement. Il y en a quand même un qui est plus fort que l'autre, qui a un meilleur palmarès que l'autre, normalement. Mais on n'a toujours pas vu, et c'est ça qu'on a envie de voir. Enfin, pour dire différemment, on a quand même envie de voir est-ce que Paul Sexas a une limite et où est-ce qu'elle est. Et sachant qu'elle pourra après augmenter au fil du temps. Mais là, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu craquer, on ne l'a pas encore vu exploser, on n'a pas encore vu... échouer sur un obstacle qui est ce qui arrivera à un moment ou à un autre, mais pour l'instant on l'a pas vu, donc c'est toujours ce moment un peu excitant de tu ne sais pas où est ta limite. Et je pense que ça va être assez excitant aussi et pour Paul Sexas et pour l'équipe Decathlon CMA CGM parce que on n'a pas encore vu ça.
De toute façon la strat est simple, hein. Faut qu'ils suivent Pogacar, il y a pas d'autre solution. S'il veut essayer de gagner, c'est la seule manière. Et après on verra.
Tu sais pas à lui de prendre les devants, attaquer Pogacar dans la redoute? On n'y croit pas trop au scénario? Si?
Oh, moi je trouverais ça osé, mais... osé.
En fait, le problème, c'est que c'est vrai qu'avec Paul, on sait plus trop quoi penser, quoi. C'est-à-dire qu'il a une telle personnalité...
Sur le Pays Basque, il nous a fait tous les coups possibles et inimaginables, donc tout est possible.
Exactement, Pierre. Non mais c'est vrai qu'on sait plus.
Ouais, alors peut-être à mon avis, on va un peu vite là dans la course.
Je suis d'accord.
Tout ça implique qu'il soit à la redoute en même temps que Pogacar et très bien placé.
Le placement sera très important.
Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas attaquer le premier? Effectivement, c'est possible. De toute façon, tout le monde sait que Pogacar va attaquer à cet endroit-là. Donc, si tu le fais en avance, tu sais qu'il va te suivre et vous attaquerez à deux plutôt qu'attaquer à un. De toute façon, à un moment ou à un autre, tu seras dans la route Pogacar et il faudra essayer de tenir. Donc, en fait, oui, tu peux commencer. De toute façon, Pogacar, on sait... T'as 50 mètres où tu sais qu'il va attaquer, parce que tu sais, il attaque à chaque fois au même endroit, au moment où ça commence à devenir un tout petit peu plus difficile. Il attend même pas le vrai moment difficile, il attend le moment où ça commence à devenir un tout petit peu difficile quand tu longes comme ça l'auto. Donc, si Sexas est bien placé, si Sexas a survécu à toutes les embrouilles du début de course et sont nombreuses, Ouais, pourquoi pas.
On rappelle évidemment, Liège-Bastogne-Liège. Vous avez compris hein, les favoris, on va revenir sur les participants tout à l'heure, mais voilà, ça tourne autour de Pogacar, triple vainqueur de la course, autour de Remco Evenepoel qui l'a gagné deux fois. D'ailleurs, Pogacar et Remco, ils n'ont jamais été vraiment ensemble sur les mêmes moments de forme.
Bah, la seule année où ça aurait pu se passer, Poggi est tombé.
Exactement, et puis sinon Remco était à court de forme. Pour se sentir Remco. La 112e édition de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Bon, bah, voilà, le parcours, il ne change pas beaucoup hein, depuis un ou deux ans, en tout cas il y a eu quelques petites modifications mais là on est sur quelque chose de classique avec 259 km à parcourir, départ à 10h, arrivée aux alentours de 16h, 11 difficultés à franchir, on nous annonce des conditions plutôt bonnes, hein, avec du soleil et pas beaucoup de vent en tout cas pour avoir de l'incidence sur la course, et vous le savez voilà, évidemment c'est pas la flèche wallonne hein, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins et qui viennent avec la mouvance Sexas découvrir les monuments, c'est une course bah, qui ressemble à un peigne, avec beaucoup de difficultés, surtout on va dire quand on est à 90 km de l'arrivée, ouais. On parle souvent de l'enchaînement Van Stoke haute levée pour les difficultés avant d'arriver à 34 km de l'arrivée dans ce qui ressemble au final, l'ascension de la Redoute et la Roche au Faucon à 13 km de l'arrivée notamment. Voilà pour le parcours global pour que vous l'ayez en tête. Pierre, tu as déjà roulé sur le parcours de la doyenne, où est-ce qu'il faut être prudent?
Alors en fait pour bien comprendre, c'est ce qui est sympa avec Liège-Bastogne-Liège, c'est que c'est vraiment Liège-Bastogne-Liège, oui. C'est-à-dire que vous partez de Liège, vous descendez tout droit, alors la partie vers le sud, donc l'allée en fait, se fait sur les grosses routes qui longent l'autoroute.
La descente n'est pas très fun, jusqu'à Bastogne.
Voilà, c'est pas très fun, mais ça longe l'autoroute qui s'appelle l'autoroute du soleil, et quand vous la prenez, c'est pas le nom qui vous vient immédiatement en tête, hein. Il fait rarement ce temps-là, mais bref. Et en fait, c'est des grandes routes assez droites qui montent et qui descendent, mais de façon un peu plus, calme que ce qu'on va avoir sur la deuxième partie de la course. Et alors là, le souci, c'est que ça reste que les routes ne sont pas en très bon état, parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent, notamment avec du bois, avec du travail du bois, donc bref, il peut y avoir des trous sur la route. Les descentes, ben comme c'est tout droit, ça va très vite, et il faut éviter les chutes, il faut éviter... les dangers, ça frotte aussi un peu, donc c'est pas très haut, mais il y a quand même un du dénivelé, deux de la vitesse, trois des dangers.
C'est dans cette première partie, voilà, où Pogacar est tombé il y a trois ans et où Alaphilippe aussi s'était cassé la margoulette.
Voilà, cette première partie, elle est un, fatigante, et deux, dangereuse. Donc il faut quand même faire attention, certes c'est pas la plus spectaculaire, parce qu'après il y a la remontée. Et la remontée, là, c'est pas les grandes routes, à chaque fois on va chercher les petites routes qui elles vont, donc ça va être le même dénivelé, mais en beaucoup plus intense. Donc ça commence dès Haussir à la Roche en Ardennes, et ensuite le fameux enchaînement Stoke Van
Haute-Levée
dans le désordre, et ensuite on arrive à la partie finale dont tu parlais, donc cette grande descente vers Rémouchan, donc la ville natale de Philippe Gilbert, et où tu vas vraiment très 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 vite, beaucoup trop vite d'ailleurs, et ensuite et là où il faut être très bien placé pour...
Là c'est déterminant,
voilà, 35 km
dans la Redoute, et cette montée où tu longes l'autoroute un peu dans les champs, où tu arrives en haut donc d'une colline où il y avait une redoute et une bataille entre les Français et les Autrichiens, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et qui est extrêmement... qui a un mix en fait entre le pourcentage et la longueur, et c'est pour ça que ça se fait que la sélection se fait à ce moment-là.
La Redoute, on rappelle, 1,6 km d'ascension à 9,4% de pente moyenne, maximum 16,5. On a dit ouais, le placement au pied sera déterminant. On a vu l'équipe de Paul Sexas jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été piégés hein, dans toutes les courses depuis le début de l'année.
Ça a très bien marché, le collectif fonctionne bien, et aux dernières nouvelles, franchement, tout s'est passé au cordeau pour Paul Sexas, et même là quand sur la flèche, il tombe, il est ramené. Alors, il pète un petit peu à la fin, il est un peu tout seul juste avant le début du mur de vie, mais en tout cas, l'équipe a fait son boulot jusqu'au dernier moment, il est emmené dans les parfaites conditions.
Non mais ça c'est hyper important, parce qu'il y a eu tellement d'outsiders ou des leaders par le passé qui n'arrivaient jamais à bien se placer dans les moments déterminants. On va voir en ce moment-là si justement cette équipe a eu à la maturité pour cette ascension. On rappelle c'est important, on l'a pas dit jusqu'à maintenant, Paul Seixas, première participation à Liège-Bastogne-Liège pour adultes. Hein. Il l'a déjà gagné chez les juniors, où on avait la moitié du parcours, en fait, et la moitié de la distance également. Mais voilà, dans cette montée de la redoute, la grande question, c'est Pogacar a construit ses victoires là-bas. Pogacar va attaquer là-bas. On a quand même du mal à voir autre chose. Il n'est pas du genre à nous surprendre. Hein. On l'a vu, Pogacar. Il attaque au Coirmont au même endroit sur le Tour des Flandres, sur les Bastogne-Liège.
Le truc, c'est qu'avant, il y a quand même une transition qui fait qu'une attaque, par exemple, sur la Côte de Vannes ou Stokeux, paraît quand même un très long raid, un peu compliqué. C'est pas Milan-San Remo où on nous a sorti le coup de la Cipressa pendant des années et des années. Là, j'ai du mal à voir, mais on peut toujours être surpris. Hein.
Non, mais on s'imagine une explication entre chefs dès la redoute. Je rappelle que l'on sera donc à 34 km de l'arrivée. Hein.
Alors, le scénario le plus probable, qui probablement donc, n'aura pas lieu, parce qu'à chaque fois qu'on a prédit quelque chose, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, mais pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est une attaque de Tadej Pogacar, suivi...
Et c'est ce qui sera dans les briefings des équipes, on l'imagine, hein, dimanche matin.
Donc, a priori, donc à la redoute, plutôt qu'avant ou après, parce que c'est le moment où, en fait, tu te débarrasses de tous les équipiers et que tu te retrouves pour un mano à mano entre leaders. Parce que s'il attaque avant, ses petits camarades auront de la main-d'œuvre pour revenir sur lui.
Et c'est là que tu as les pourcentages pour faire la différence aussi.
Donc, si tu attaques dans la redoute, et on imagine que Paul Seixas va le suivre, enfin, va essayer de le suivre, et on va partir du principe qu'il va arriver à le suivre, et qu'on va aussi partir du principe que Remco va avoir du mal à le suivre sur les pourcentages les plus durs de la...
Bon, on en parlait avec Jérôme Coppel en début de semaine, hein, pour le coup de ça, et même avec nos confrères belges. Hein. D'ailleurs, je vous invite à écouter notre podcast avec les amis dans Coléno Classique de la RTBF. Mais voilà, sur ce moment de vérité, est-ce que Remco semble finalement être le moins adapté, on va dire, dans la montée de la redoute à tenir ?
Déjà.
Voilà. Mais ça implique... sur l'épisode d'après, un jeu que il n'y avait pas forcément avant. C'est-à-dire que les derniers Liège-Bastogne-Liège, le leader arrivait solo et...
Et continuait de creuser indéfiniment jusqu'à l'arrivée.
Voilà, plus ou moins, parce que Pogacar, il ne creuse pas des masses ensuite. Mais là, Pogacar n'est pas tout seul, donc du coup, est-ce que Seixas va relayer ou pas ? Est-ce qu'il devrait le faire ou pas ? Est-ce qu'il va le faire ou pas ? C'est plein de questions où je pense qu'on peut répondre que, un, il va le faire, deux, peut-être pas, mais ça, on ne peut pas le savoir avant, et trois, est-ce que Remco sera tout seul ou lui aussi avec des gens qui peuvent l'aider à mener une poursuite, comme et on l'a vu avec Skelmoseu, qu'ils étaient pas mal en duo pour revenir sur Pogacar, sachant que les 13 derniers kilomètres, c'est de la descente et du plat. Donc ça laisse de la marge pour essayer de revenir derrière.
Toi, Max, t'imagines aussi un scénario avec Pogacar et Paul en haut de la redoute ?
Je vois plutôt ça. Je trouve qu'Evenepoel est quand même un cran en dessous. Ce qu'il a montré sur l'Amstel m'a pas forcément totalement convaincu. Le fait qu'il n'arrive pas à se décrocher de Skelmoseu.
Même s'il a tenu son rang, il a réussi à gagner ses courses quand il était attendu.
Il a gagné, mais je pense qu'il... Pour en tout cas avoir quelque chose, un petit cran en plus dans ma liste de favoris, il aurait fallu qu'il le décroche, Skelmoseu, et il ne l'a pas fait. Donc j'ai un petit doute sur Evenepoel qui tient la cadence en effet face à Pogacar et Seixas. Et après, on voit, si Seixas explose, il retombera sur Evenepoel. S'il continue dans la route Pogacar.
Non mais c'est vrai que c'est dur de rentrer en plus après la redoute. Hein. Franchement, dans ces routes-là sinueuses, quand t'as un groupe qui part ou un coureur qui part, c'est très compliqué de rentrer. C'est pour ça qu'on l'a rarement vu dans les scénarios précédents sur la doyenne des classiques. On se met d'accord sur le fait que ce qui peut-être fera la différence, ça peut être la côte de la Rochefaucauld. Là, on est vraiment dans le final, à 13 km de l'arrivée. Je rappelle, 1 km 300 de montée à 11%. Là, on est vraiment dans les contreforts. On est dans Liège, hein, déjà pratiquement, avec une pente à 15% au pied. Franchement, c'est ultra violent au pied après plus de 200 km de course. Est-ce que c'est le moment qu'on imagine déterminant, Pierre ?
Alors elle est vraiment...
Tu l'as montée la Rochefaucauld ?
Ouais, elle est vraiment dure celle-là.
Les gens s'en souviennent apparemment.
J'ai monté en voiture, je voulais pas caler, hein, je vous le dis.
Mais les gens s'en souviennent, mais j'avais pas 240 km dans les jambes, auquel cas ça n'aurait pas été possible. Ces fameux 240 km vont peser énormément sur le résultat, sur une montée... sèche où je pense que Seixas peut suivre Pogacar. Là, parce qu'en plus elle est relativement courte et que l'explosivité, bah, il nous a montré hier qu'il était quand même pas mal. Là, les efforts fournis sur la première partie de course vont peser. Le scénario de course va peser, mais et aussi ce qui nous manque, c'est qu'est-ce que Pogacar a envie de faire. Pogacar, on sent qu'il a envie de jouer. On sent qu'il a envie de jouer avec Sexas. Il a évidemment liké tous les posts de Sexas sur.
Mauro Gianetti a dit au micro de Maria Azé d'RMC que ça allait être une course très plaisante dimanche, en tout cas qui excite un petit peu tout le monde. Assez d'accord.
Il y a clairement une envie de. Enfin, on connaît maintenant un peu la psyché du garçon. Il a envie de jouer et là, il a un camarade de jeu et s'il peut lui mettre une belle peignée, il ne va pas s'en priver. Donc, la logique voudrait que ça se passe dans la Roche-aux-Faucons, mais ce n'est pas sûr qu'il y arrive. En revanche, et c'est là où c'est plus facile parce qu'il joue un peu plus sur du velours, je pense quand même que Pogacar a beaucoup plus de références au sprint qu'un Sexas.
Il a déjà gagné au sprint, sa première victoire en
rappel. Il y a aussi Sexas qui n'a pas de référence sur 250 km.
C'était l'une des questions avec nos amis belges ce lundi.
Voilà, là on a quand même un doute de savoir s'il va réussir à tenir à distance. Après, il a déjà fait les mondiaux, il a déjà fait les Europes qui sont un tout petit peu moins longs. Mais est-ce que sur un monument avec autant de dénivelé, est-ce qu'il va réussir à tenir ces 240 km pour arriver au pied de la Roche-aux-Faucons ? Est-ce qu'il ne va pas le payer à ce moment-là ? C'est aussi une possibilité, malheureusement.
Ce qui est certain, c'est que c'est une course qui peut être un avant et un après dans l'ordre mondial du cyclisme. Parce que si Paul Sexas devance Remco Evenepoel, je pense que dans le monde du cyclisme, tout le monde va se dire désormais, il y a Pogacar, il y a Vingegaard et peut-être qu'il y a Paul Sexas, peut-être même au niveau de Jonas Vingegaard. Si Paul Sexas venait à s'imposer, on s'autorise
jusqu'au
pas à
bout, à le battre au sprint.
On est tous d'accord, on s'enflamme pas. Le grand favori, c'est Tadej Pogacar. Mais évidemment, ce serait un tremblement de terre. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui sont en train de découvrir le cyclisme avec tout ce qui est en train de se passer actuellement. Mais ça aurait vraiment. Ce serait un séisme si jamais Paul Sexas arrivait aussi proche du Tour de France. On rappelle qu'une décision doit être prise et annoncée après pour Paul Sexas pour savoir s'il va participer au Tour. Mais il y a ça qui se joue aussi,
aussi ce dimanche. Si Paul Sexas n'y arrive pas, si Paul Sexas a une défaillance, si Paul Sexas a un problème, ça n'est pas grave.
Il n'a que 19 ans.
Ah mais ça, on est, je pense que...
oui.
On est tous d'accord là-dessus. Il ne faudrait pas qu'il passe complètement à côté non plus. Parce que c'est vrai que ça viendrait peut-être un petit peu doucher l'enthousiasme.
Bien sûr, mais...
démesuré, je ne sais pas d'ailleurs. Je pense qu'il a ça à la hauteur.
Après, si on fait le bilan à Liège et que même s'il a histoire, il aura quand même gagné le Pays Basque et la Flèche, la saison est déjà réussie, plus.
Non mais là c'est juste qu'il serait, déjà qu'il est en avance sur les temps de passage,
ce serait,
là, il exploserait les temps de passage.
Oui, oui, bien
s'il fait un podium ou s'il se bat avec Pogacar, il est prêt quoi. Tu veux pas en dire plus.
je veux pas que
on se laisse emporter par l'enthousiasme.
Mettre le gamin sur un piédestal pour l'en descendre aussi vite.
Oui. Non mais totalement.
Même si s'est mis tout seul sur le podium, mais c'est un podium, c'est pas un piédestal. Et derrière, on est quand même dans une phase d'apprentissage d'une carrière qui a des hauts et des bas. On n'a toujours pas vu de bas, donc mais ça arrivera un jour. Donc il faut quand même prendre un shoot de distance et se dire que effectivement il y a quelque chose de très grand qui peut arriver. C'est pas forcément le cas et ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais.
Tiens, Paul Sexas avant la Flèche wallonne qui avait parlé d'une confrontation à venir dimanche face à Tadej Pogacar. Donc là il n'avait pas encore gagné la Flèche dans sa tête, mais il parlait de cette confrontation comme ça.
Je pars jamais dans une idée défaitiste de me dire que je joue la deuxième place forcément. Je baisse pas les yeux, je peux pas me permettre de baisser les yeux au départ, c'est pas possible, c'est pas dans mon esprit. Bien sûr que j'ai hâte, c'est toujours une belle expérience de courir contre lui. Comme j'ai dit, c'est peut-être le meilleur coureur de tous les temps.
Voilà, je baisse pas les yeux. Non mais les mots sont importants quand même de la part de Paul. Ça me fait penser à ce que nous a dit Marc Madieu dans la grande gueule du sport il y a quelques jours en disant « S'il vient sur le Tour de France, c'est un garçon que quand il viendra pas pour faire podium, il viendra pour gagner. »
Bien entendu.
C'est-à-dire que ça dit quelque chose sur son état d'esprit, sur son mental, ce garçon. Quand il vient sur une course, comme sur la Flèche, comme sur le Tour du Pays Basque, souviens-toi Max, au début des étapes, il disait « Aujourd'hui, je vais viser la victoire.
» ils sont moins bons en descente, j'ai essayé de les larguer.
Non mais voilà, c'est un garçon qui vient sans complexe devant personne. Il faut le dire quand même, je vais regarder dans les yeux Pogacar.
Je pense qu'il faut envisager cette course comme la troisième partie d'un triptyque. Il y a eu la première partie, c'était les championnats d'Europe l'année dernière, où il a regardé Pogacar partir, il a regardé Remco voir, enfin il s'est placé en numéro, en deuxième rideau. Je suis là pour apprendre, je regarde comment ils font, ah ok, peut-être que je pourrais les suivre, on va voir. Voilà, ça c'était, et derrière je règle, pour finir sur le podium, parce qu'il ne faut pas rigoler non plus. Deuxième partie, Strade Bianche. Pogacar y va,
j'y vais.
Je suis l'adversaire numéro un.
Je suis le seul à y aller.
Je suis le seul. Et il est obligé de me ramener son Gregario mexicain, par ailleurs deuxième meilleur coureur du monde au ranking, pour m'empêcher de... Donc je suis... Voilà, je me place dans... Je suis ton rival. Pour l'instant, ok, tu m'as eu, mais je suis là et je demande l'aide de personne pour faire deuxième.
Et il prend pas un éclat non plus pour faire deuxième.
Non,
Pogacar.
Éclat, hein. Et il ne s'arrête
deuxième
pas.
Deuxième avec autorité.
Voilà,
tout à fait.
Il ne s'arrête pas. Il relaye. Enfin, il continue et il attend pas le groupe derrière pour. Non, il assume tout seul en patron. Et là, la troisième, la suite logique, c'est ok. Maintenant, un contre un. Un contre un, on voit. Et donc, je pense que là, l'objectif, il est de suivre au maximum, quitte à exploser en vol. Quitte à... Mais voilà.
Je rappelle que Christian Prudhomme, le directeur de la course et directeur du Tour de France, nous a dit il y a quelques jours sur RMC, je rêve de voir un final sprint entre Pogacar et Sexa.
On est nombreux à en rêver.
Voilà. Donc, non, mais pour dire que l'enthousiasme n'est pas seulement médiatique, mais vient aussi de, évidemment, des organisateurs qui ont envie de voir des belles courses et qui ont envie de vendre les courses aussi, évidemment. Mais que, voilà, il y a une excitation. Il y a une excitation aussi, même dans l'encadrement de l'équipe des Decathlon CMA-CGM. Hein. Je rappelle que d'ailleurs que RMC BFM appartient au groupe CMA-CGM, mais voilà, on entend Julien Jourdi, le directeur sportif, dire qu'il n'a jamais vu ça, le répéter en permanence, et que même dans l'approche des courses, c'était assez impressionnant de voir le leadership.
Et même Hino qui l'adoube à demi-mot récemment aussi. Donc il y a quelque chose qui se passe, bien entendu, il y a un environnement et médiatique et dans le milieu du cyclisme qui fait qu'on s'aperçoit quand même que ce gamin a quelque chose et qu'il n'a que 19 ans et qu'il fait des performances qu'on n'a jamais vues à cet âge-là et pour un Français depuis là, bien trop longtemps.
Alors pour les favoris, figurez-vous que nos amis néerlandais donc de Villarvitz ont même fait un sondage, ils ont demandé aux internautes qui allaient gagner. Alors 60% ce jeudi, disait Pogacar, on est tous d'accord pour dire que c'est le favori 5 étoiles.
Oh bah largement,
pas
oui.
Pas de débat là-dessus, Pierre.
Pas de débat.
Pas de débat. Et alors juste derrière, donc il y avait deux garçons, un à 20% et l'autre un petit peu en dessous des 10%. Le deuxième, c'est Paul Sexas, pour les internautes néerlandais. Le troisième, Remco Evenepoel. Alors, Sexas, plus outsider qu'Evenepoel. Max, t'en penses quoi?
Moi, je les mets au même niveau. Je les mets à 3 étoiles tous les deux, je mets personne à 4, Pogacar à 5. Je les mets au même niveau. Alors Remco, déjà par le palmarès, bien entendu. Puis j'attends de voir, en effet, tout ce qu'on a dit sur Paul. Est-ce qu'il va tenir cette distance de 240 km ? Donc je les mets à égalité tous les deux.
Pierre ?
Non, moi je mets Sexas devant Evenepoel. Notamment parce qu'il y a Tadej Pogacar. Et que comme Tadej Pogacar est l'immense favori et que la course va tourner autour de ce qu'il va faire ou pas... J'imagine que Paul Sexas est mieux à même de suivre l'attaque qui va forcément faire très très mal de Tadej Pogacar, en tout cas qu'il sera plus à même de la suivre que Remco.
Effectivement, sur cette course donc, où c'est une partie de la hiérarchie de l'échiquier mondial qui va peut-être se jouer effectivement entre Remco et Sexas, c'est ce qui peut se jouer pour la suite de la saison sans s'enflammer. Il y a d'autres coureurs qu'on met parmi des possibles perturbateurs de la course. C'est vrai qu'on l'a pas trop vu sur les monuments jusqu'à maintenant, à part peut-être Pidcock sur San Remo,
qui est un peu en dents de scie. Pidcock, c'est un jour off, un jour on en ce moment, donc
mais bon, il a été pas mal.
Il a gagné hier au Tour des Alpes, mais la veille il a complètement explosé comme du popcorn.
Mais vous voyez quelqu'un les embêter, franchement?
J'ai du mal à voir. Moi, perso, y a, par exemple, il n'y a personne en deux étoiles et il y a une étoile qui joue le top 10, quoi. Mais
Vauclin, Skelmoseux...
Alors, on peut espérer que...
Grégoire,
effectivement, il y ait des bons second rôles. Et tu les as cités, Skelmoseux, Vauclin, Pidcock, Grégoire, éventuellement...
Cosnefroy sera coéquipier de Pogacar, compliqué.
Ça reste des seconds rôles dans l'histoire. Alors après, peut-être que sur un malentendu, ils arriveront dans un groupe de 4 et que ça jouera sur un sprint. Mais pour l'instant, on est vraiment avec une telle domination de quelques coureurs que pour les autres, déjà s'accrocher c'est bien. On en est à ce niveau-là et comme il n'y a pas vraiment de surprise et qu'il y a toujours un, deux, trois favoris qui se bagarrent à la loyale. C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu sur, sur Milan-San Remo, c'est ce qu'on a eu sur Paris-Roubaix, c'est ce qu'on a eu sur le Tour des Flandres, c'est ce qu'on imagine avoir sur Liège-Bastogne-Liège.
On a hâte de vivre cette course où je rappelle que l'on attend un vainqueur français depuis 46 ans. Bon. Le dernier, c'était Bernard Hinault en 1980. Vous savez, cette histoire qu'on raconte à chaque fois, quand il a gagné sous la neige, il a perdu la sensibilité des doigts.
Oui.
Voilà, exactement. Mais vous rendez compte quand même la mémoire qu'il faut à chaque fois invoquer pour revenir sur les grands succès français.
De toute façon, pour les grands succès français, c'est soit Hinault, soit Jalabert. Hein, donc
c'est souvent que Hinault, même. Et oui. D'ailleurs. Dans cette histoire, il y a eu dans l'histoire 5 victoires françaises. Anquetil aussi a gagné en 66. Hino, c'était 2 fois le recordman. C'est Eddy Merckx avec 5 succès qui ne peut pas être rejoint cette fois-ci, puisque je rappelle que Pogacar en est seulement à 3.
Petit joueur.
T'as encore du taf. Écoutez, Liège-Bastogne-Liège à vivre ce dimanche sur RMC en direct avec Maria Azé, Jérôme Pinault. Départ à 10h. Je vous le disais, Pierre Cotchette, merci beaucoup. Et Maxime Martinez, merci.
Merci, Jean.
De vivre ce feu d'artifice final des monuments du printemps. Ça va déjà nous manquer, hein, franchement.
Ouais, j'ai pas envie que ça se termine.
C'était bien,
mais tu sais, après, t'inquiète pas, il y a le Giro, il y a le Tour d'Italie qui arrive après avec Vingegaard. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner deux tours? Est-ce qu'il va gagner le statut?
Le Tour de Romandie.
Non,
mais... on met pas mal.
Mais c'est bon, les gars, il y a plus de temps mort dans la saison de cyclisme. C'est pour ça qu'il faut vous abonner aussi, si vous voulez. Abonnez-vous au podcast Grand Plateau. Comme ça, ne faites rien, écoutez-nous pour profiter au maximum de toutes ces informations. Vous restez connectés. Évidemment, on va vivre ensemble cette course dimanche sur RMC Liège-Bastogne-Liège.